Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois Mupien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Le samedi 7 octobre s'est tenue à l'espace culturel Édouard Leclerc à Pont-Sainte-Maxence la deuxième édition du Salon du Polar. Salon organisé par Thierry Bédot. Sur place, une quinzaine d'auteurs venus présenter leurs ouvrages et rencontrer leurs lecteurs. Présent au Salon du Polar à Pont-Sainte-Maxence ce samedi 7 octobre, l'auteur Éric Foissier veut nous présenter Les Nuits de la Peur Bleue.
Bonjour, ravi d'être là. Donc aujourd'hui je suis présent sur ce salon pour présenter mon dernier roman, qui est en fait le troisième volet de la série du Bureau des Affaires Occultes. Et ce roman s'intitule « Les Nuits de la Peur Bleue ». Et en fait, la Peur Bleue, c'est le nom qu'on donnait au choléra en 1832. En fait, le contexte du roman, c'est cette épidémie de choléra qui va faire des ravages dans Paris en 1832 et qui permet en fait de retrouver tout ce qu'on a vécu au moment de la Covid. C'est ça qui m'a fasciné, c'est qu'à 200 ans d'intervalle, tout ce qu'on a vécu, les fake news, la tentation du confinement, les fausses nouvelles, les controverses scientifiques, tout ça existait déjà à cette époque-là. Et donc on a un Paris qui est dans un climat de peur, parce qu'à l'époque on ne sait pas du tout ce que c'est que cette maladie. Donc petit à petit Paris se referme, ceux qui peuvent s'enfuient. Et dans ce climat donc déjà très délétère, tout d'un coup, on a une série de morts mystérieuses. On retrouve des gens qui sont assassinés et à qui on a prélevé un organe. Et évidemment, ça déchaîne les peurs, ça amplifie les peurs. Et donc, c'est le jeune inspecteur Valentin Verne, qui est donc le chef de ce bureau des affaires occultes, qui est chargé d'enquêter sur ces meurtres étranges et de comprendre pourquoi on assassine ces gens et surtout pourquoi on leur prélève un organe, en plus différent à chaque fois.
Vous disiez que c'était le troisième tome, le quatrième, voire le cinquième, et sont en cours d'écriture ?
Oui, je suis en train d'écrire le quatrième. Alors, les trois premiers tomes bouclent un premier cycle à l'intérieur de la série, qui est un cycle consacré au passé de l'inspecteur, parce qu'on comprend très vite, les lecteurs qui ont déjà lu les deux premiers tomes savent que cet inspecteur, il n'est pas rentré dans la police par hasard. C'est-à-dire qu'il poursuit une quête qui est plus personnelle, qui est la traque d'un mystérieux criminel qui s'appelle le vicaire, qui est une figure presque mythique dans la pègre de cette époque-là, mais dont on ne sait pas grand-chose en réalité. Et donc, tout ça nous amène à découvrir le passé de l'inspecteur Valentin Verne. Et là, dans celui que je suis en train d'écrire, j'avais envie, justement, que le lecteur passe à autre chose, renouveler un peu les choses. Et donc là, Valentin va quitter Paris. On est toujours en 1832, comme dans Les Nuits de la Peur Bleue, mais un mois plus tard. Et on va confier à Valentin une enquête secrète, de police secrète. Il va aller en province et il va être mêlé au dernier soulèvement de la Vendée. En fait, la dernière guerre de Vendée, la duchesse de Berry se rend en Vendée et essaye de soulever une dernière fois le peuple vendéen. Et Valentin va devoir enquêter sur une série de crimes mystérieux qui se déroulent à ce moment-là dans le bocage vendéen.
Quel ouvrage historique, quel site internet, quel document vous inspire pour justement être au plus près de cette époque ?
Enfin, les amateurs de polar historique, s'ils aiment ce genre-là, c'est parce qu'à la fois, ils ont tout ce qu'apporte un polar, c'est-à-dire des rebondissements, des intrigues, de l'aventure, des twists, mais ils aiment apprendre des choses. Donc ce qui est important, c'est effectivement d'avoir une bonne documentation et justement de l'avoir suffisamment intégrée pour qu'elle soit un peu transparente, c'est-à-dire reconstituer une atmosphère, une époque, mais sans avoir donné l'impression de donner un cours d'histoire au lecteur, parce que le lecteur ne veut pas ça. Mais en même temps, il veut apprendre des choses sur la période. Donc c'est très important de bien se documenter. Donc la documentation, elle passe à la fois par la lecture de livres historiques, des livres d'historiens sur l'époque, sur les personnages historiques de cette époque-là. Par exemple, dans Les Nuits de la Peur Bleue, on croise George Sand. Bon, du coup, j'ai lu plusieurs biographies de George Sand. Et puis, après, du travail en archives. Alors, heureusement, il y a beaucoup maintenant d'archives qui sont numérisées. Ça, c'est vrai que c'est un vrai plus par rapport à il y a quelques années. On n'est pas obligé de se déplacer à chaque fois. On peut trouver beaucoup de choses numérisées. Et donc, ce travail en archives va permettre de se documenter notamment, surtout sur la vie quotidienne. Comment on se nourrissait à l'époque, chez quel fournisseur on allait acheter, quand on était une femme du grand monde, ses toilettes, ses chapeaux, etc. Comment on se divertissait, comment on se déplaçait à cheval, etc. Le temps qu'il fallait pour se déplacer à tel endroit. Voilà, et tout ça, bon, ça passe par du travail en archives. Et parfois, on est quand même obligé de se déplacer. Par exemple, je suis allé au musée de la préfecture de police pour voir comment, là, il y a des anciennes gravures de l'ancienne préfecture de police qui n'existe plus, hein, qui était rue de Jérusalem, une rue qui n'existe plus, qui était dans l'île de la Cité. Donc, de temps en temps, on est obligé quand même d'aller se déplacer dans des musées, dans des archives, pour aller voir des documents originaux.
Ce qui fait son succès, ce travail d'analyse assez fin, puisque plus de 500 000 lecteurs ont déjà lu les trois premiers tomes.
Ouais, ça a été extraordinaire sur cette série, le Bureau des Affaires Occultes, ça a un peu transcendé les genres. C'est-à-dire que c'est vraiment une série auquel ont adhéré à la fois des gens qui n'avaient jamais lu de polar historique, qui étaient des amateurs de polar, mais qui lisaient du polar contemporain, et ça leur a plu. Ça a plu à des gens qui n'avaient jamais lu de polar, qui lisaient des romans historiques, et ça leur a plu. Et c'est même pour la première fois une série où moi j'ai eu du coup un lectorat d'adolescents. Même des adolescents ont aimé ça parce que ils ont lu ça un peu comme ils regarderaient une série Netflix, quoi. Et ça, c'est génial pour un auteur quand tout d'un coup... Bon, il faut dire que le premier tome de la série, qui s'appelle Le Bureau des Affaires Occultes, a obtenu le prix Maison de la Presse et que ça a permis au livre, voilà, d'être présent partout. Et il est traduit en une dizaine de langues. Je suis en Italie la semaine prochaine. Après, je vais en Espagne. Et bon, c'est génial de voir l'engouement autour de cette série, du personnage, de l'ambiance de l'époque.
Éric Foissier, merci à vous.
Merci à vous.
On poursuit le reportage avec Emmanuelle Faguet. Elle est venue présenter aujourd'hui son premier polar, Les Désobéissants.
Alors, c'est un roman qui se passe en Picardie, dans un manoir. On trouve deux cadavres, celui d'un homme mort dans son lit d'une overdose de morphine, le héros, qui s'appelle Marcus Solar, et au pied de l'escalier, on trouve une femme morte de ce qui semble être une chute, donc mortelle dans l'escalier. La femme s'appelait Elisabeth et c'était la domestique de Marcus. On découvre que l'homme, c'est un ancien très grand pianiste, à la retraite depuis 30 ans, qui avait arrêté sa carrière au sommet de sa gloire. Et de nos jours, il revient sur scène pour une série de concerts exceptionnels et il est retrouvé mort la veille du comeback. Et donc toute la question, c'est pourquoi a-t-il arrêté de jouer il y a 30 ans et pourquoi est-il mort la veille de son retour sur scène? Et du coup, le roman est découpé en plusieurs temporalités qui vont suivre la vie atypique de cet homme-là à travers les femmes de sa vie, d'où le titre Les Désobéissantes, qui chacune d'elles vont apporter les réponses au mystère de cet homme et au mystère de sa mort aux côtés de sa domestique de nos jours.
Comment est venue l'idée de ce polar ?
Alors tout d'abord, c'était un projet de scénario où je voulais vraiment traiter du parcours mystérieux d'un pianiste, car la musique classique me passionne. Et je voulais mêler des dessins de femmes de milieux sociaux totalement différents, d'âges différents, autour de cet homme-là. Et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de démarrer par la mort de cet homme-là, en me questionnant aussi sur la figure de l'artiste reclus. Que devient un artiste quand il cesse de jouer ? Est-il encore un artiste ? Et que se passe-t-il pendant toute cette période de sa vie ? Maintenir ce mystère-là. Et ensuite, j'ai construit sur les flashbacks, c'est-à-dire l'enfance de cet homme-là, le sommet de sa gloire, et qu'est-ce qui le pousse à tout arrêter brutalement. Et donc, ouais, le mystère du roman est vraiment partie de ça. Et ensuite, j'ai construit toute sa vie et toutes ces femmes-là autour de cet homme-là.
Parce que vous êtes auteur, mais vous êtes également scénariste dans la vie ?
Oui, tout à fait. Je suis scénariste pour la télévision, sur différentes séries, polar ou thriller, actuellement. Et ça me nourrit beaucoup, évidemment, pour le roman. Ça m'aide et en même temps, ça me donne une beaucoup plus grande liberté, le roman, que le scénario. Parce que je suis maîtresse totale de ce que je raconte. Et c'est deux écritures très différentes, mais qui sont en même temps très complémentaires.
Vous préférez quoi ?
J'ai pas de préférence. J'aime autant les deux. Et c'est très différent, comme je dis. Les deux sont très intéressantes pour des raisons différentes.
Dans les séries, on est plus dans les séquences. On coupe peut-être un petit peu plus les étapes. Là, dans le roman, on peut tout lâcher.
Exactement. Dans le roman, on peut prendre plus son temps sur certaines parties pour développer les caractères des personnages, pour créer plus de suspense. Alors que dans le scénario, il y a une efficacité qui va primer, j'ai l'impression, quand même. Créer du suspense, il y a des cliffs, il faut aussi tenir compte du format, en fonction du diffuseur, en fonction de la chaîne, en fonction du public. Le roman, il y a quand même une liberté, puis si on veut, on peut faire brûler une maison, il n'y a pas de problème, il n'y a pas un producteur qui va vous dire « c'est un peu cher ». On peut mettre 25 personnages et on va vous dire « non, c'est un peu trop cher ». Donc il y a cette liberté-là qu'on prend en compte dans le roman, alors que dans le scénario, on se limite parfois, évidemment, en raison des coûts, évidents. Mais ce qui est génial avec le scénario, c'est que ce qu'on écrit un jour va apparaître sur nos écrans. Et ça, c'est ça la différence, c'est qu'on écrit pour un public qui va voir ça à la télévision. Donc c'est très différent.
Bien sûr. Quel était l'accueil pour votre premier roman?
Ça s'est très bien passé, j'ai fait beaucoup de salons, j'ai eu une belle presse, et donc ce qui me motive, moi et mon éditeur, à continuer. Donc là, je suis sur un second roman que je suis en train d'écrire. Donc voilà, c'est le parcours continue, il sort en poche en janvier. C'est une belle première aventure pour un premier roman, donc je suis très contente.
Vous pouvez citer la maison d'édition?
Bien sûr, c'est HarperCollins, France. C'est une très belle maison, mon éditrice Marie-Eugène m'a accompagnée dès le début, m'accompagne toujours, et c'est vraiment une très belle maison que j'encourage tout le monde à connaître, et qui publie des magnifiques romans, que ce soit littérature générale ou polar.
Emmanuel, merci à vous.
Merci beaucoup.
Terminons le reportage avec Valérie Allam. Elle était venue présenter deux ouvrages, « Quatre morts et un papillon », ainsi que « Envole-moi ».
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez présenter « Quatre morts et un papillon » qui a été prix 2019 du premier roman?
Oui, bien sûr. Alors en fait, je n'écris, les deux ne sont que des romans noirs, ne sont pas des polars, dans le sens où il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'équipe de police, mais en revanche, il y a tous les codes du genre, il y a des morts, malheureusement, un mystère, un suspense qui porte à avoir envie de connaître la suite, la fin, etc., parce qu'on s'attache aux personnages et qu'ils sont dans des situations noires, évidemment. Donc, ce roman 4 morts et un papillon, qui est sorti comme l'autre aux éditions du Caïman. C'est l'histoire de quatre femmes qui ne se connaissent pas, qui ne se ressemblent pas. Un événement se produit, leurs trajectoires se croisent et ça aura un impact sur l'existence de chacune. Et la particularité, c'est qu'on découvre l'histoire par le regard de chaque personnage et le lecteur, connaissant la globalité, en fait, reconstruit la totalité et s'aperçoit que, même si elles ne se connaissaient pas, tout s'emboîte en réalité. C'est un petit peu comme dans la vie. Ce qui nous arrive, on le voit de notre petite lucarne et on ne connaît pas forcément ce qui fait que cet événement arrive et les conséquences que ça peut avoir, etc. Voilà, c'est une construction très cinématographique. Et Envole-moi, c'est une histoire un petit peu, je dirais, c'est peut-être encore un peu plus sombre parce qu'on est dans l'impôt d'un personnage qui a sûrement, je ne veux pas trop en dire, des troubles d'ordre psychiatrique. Et en ce sens, ça peut être un petit peu étouffant parce qu'on voit l'évolution comme si on le vivait, en fait, de ce personnage qui évolue, qui a ses pulsions, ses envies, ses pensées qui viennent sans arrêt le hanter. C'est l'histoire aussi, il y a plusieurs histoires dans cette histoire, et c'est l'histoire, c'est une histoire d'amour aussi d'un autre personnage envers une femme qui a disparu 20 ans plus tôt. Et cette histoire va venir se résoudre de nos jours, etc. Donc, encore, ce sont des histoires, des trames narratives qui vont se croiser et qui vont trouver leur dénouement de nos jours.
Le psychologique chez vos personnages, il est très important?
Oui, alors c'est mon domaine aussi, puisque je travaille dans un centre pour jeunes atteints de troubles mentaux. Donc, et là, c'est vraiment la particularité de ce personnage.
Quels ont été les retours suite à la publication de vos ouvrages?
Bon, le premier, 4 morts et un papillon, j'ai eu un beau retour, un bel accueil, puisqu'en fait il a été primé, il a eu le prix du premier roman. Également, en fait, j'ai eu la chance dès la première semaine de parution d'être chroniquée sur Canal+. Donc moi, j'étais publiée chez un tout petit éditeur, je m'y attendais pas du tout. Donc j'ai eu un magnifique accueil là-dessus. Sur celui-ci, en fait, l'accueil est venu plutôt des lecteurs, où les lecteurs étaient surpris. Ils m'ont dit, mais je ne sais pas comment vous réussissez à faire en sorte qu'on ait ce personnage quand on le lit. On y croit, parce qu'en même temps, il est tellement différent de nous, mais c'est nous maintenant, parce que ces passages-là sont construits à la première personne du singulier. Donc on s'approprie vraiment ce personnage, etc. Même si on s'en défend, parce qu'on n'a pas du tout envie de lui ressembler.
Finalement, c'est le mieux, le retour des lecteurs.
Et oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on fait des salons et qu'on vient et qu'on traverse la France, puisque je viens du Sud, moi. Et qu'on traverse la France pour venir ici à Pont-Saint-Maxence sur un salon.
Valérie Allam, merci à vous.
Merci beaucoup.
C'était Yann Barré pour Radio Valois-Mulsien. J'étais donc, en ce samedi 7 octobre, à Pont-Sainte-Maxence, avait eu lieu la deuxième édition du Salon du Polar. Merci de votre écoute, au revoir.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
À très vite sur l'antenne d'RVM.